Sur un thème un peu ludique, je voudrais vous amener à nous promener à travers certains décors qui sont sur les pots de pharmacie et qui ont été créés dans une ville, ont évolué dans cette ville, ont pu subir des modifications, puis ont été imités et ont donné lieu à des décors issus des décors précédents. Donc c'est un voyage à travers l'évolution de quelques décors de vases pharmaceutiques. Premier décor, premier décor dont je voudrais vous parler, c'est le décor montpelliérain à la tête d'Indien et à la guirlande de fruits. Alors là, la tête d'Indien est quelque chose qui, dans l'art du XVIIIe siècle, est extrêmement répandu et il est associé ici à une guirlande de fruits. Voici un modèle type qui est en camélieu bleu, le bleu étant du bleu de cobalt. Vous voyez la tête d'Indien emplumée et vous avez dans un cartouche une inscription pharmaceutique et en dessous une guirlande de fruits. Ça, c'est le modèle de base de ce décor. Vous le retrouvez ici sur un pot qui a une forme plus montpelliéraine. C'est un pot non cintré sur pied douche qui est très répandu à Montpellier. Et là, il est complet également et il est en camélieu bleu. Alors, ce décor va pouvoir être traité de façon bicolore. Bicolore, c'est-à-dire qu'on va ajouter du violet de manganèse au bleu de cobalt. Et là, vous avez encore un pot montpelliérain avec un décor complet. Et il y a même des décors du même type qui sont polychromes, comme ici, avec adjonction du jaune d'antimoine et du vert de cuivre. Puis vous avez ici ce superbe couvercle anthropomorphe qui représente Hippocrate. La tête d'Indien peut être remplacée par une anse. Une anse anthropomorphe comme ici, qui est très classique à Montpellier. Vous pouvez également avoir une tête d'Indien qui est surélevée par un petit socle, comme ici. Vous pouvez avoir le remplacement de la tête d'Indien par le blason d'un ordre religieux. Ici, c'est l'ordre des franciscains. Ici, c'est le remplacement de la tête d'Indien par une palme stylisée. Ici, vous avez à nouveau un ordre religieux. C'est le blason de l'ordre des Carmes, auquel il manque la croix. Mais c'est quand même le blason de l'ordre des Carmes. Ici, vous avez remplacement de la tête d'Indien par les armoiries pontificales. Ici, le remplacement de la tête d'Indien par les armoiries royales de France. La suppression de la tête d'Indien, carrément. La partie inférieure va pouvoir évoluer également. Donc ici, c'est le remplacement de la guirlande de gros fruits par un feuillage qui est ici parsemé de petits fruits. Une transformation voisine avec ici un visage et une guirlande avec des fleurs. Ici vous avez une tête d'angelot et des guirlandes fleuries. Alors ici, j'ai regroupé quatre pots différents, de provenance diverses, avec des têtes d'Indien très différentes. La première, c'est la tête d'Indien de Clermont-Ferrand, qui n'a conservé qu'une toute petite plume. Vous en avez une autre à côté, qui est peut-être de Clermont-Ferrand, peut-être de Montpellier, où là, il y a simplement un petit bouton. Et puis, vous avez le modèle classique de Montpellier à côté, comme référence. Et puis, de l'autre côté, un pot qui n'est pas français, qui est un pot d'Italie centrale, et où là, vous voyez la tête d'Indien remplacée par une tête avec un grand chapeau. C'est à Rome, dans les collections du Collegio des apothicaires de Rome. À Montauban, on remplace la tête d'Indien par un énorme fruit stylisé. Ça, c'est à Bordeaux, un décor dérivé, mais un décor où on a juste conservé la tête d'Indien. Aucun élément autre n'est conservé. Ici, c'est Moustier qui remplace la tête d'Indien par un masque à macaron léonin, mais qui a gardé les plumes. Et ici, on a à la fois le remplacement par le macaron léonin et puis la suppression de la guirlande fleurie qui est remplacée par des volutes. Alors, un autre décor qui va évoluer, c'est le décor dit à la reine assise. L'utilisation dans la symbolique d'une femme assise et couronnée va servir à symboliser la justice, comme dans cette allégorie de Giotto. Vous retrouvez la même inspiration dans ce triomphe de Venise, de Véronèse, qui se trouve au Palais des Doges. Et vous allez retrouver cette reine assise sur des pots de pharmacie, notamment des pots qui sont originaires d'Urbino et qui sortent vraisemblablement de l'atelier d'Orazio Fontana et qui ont été préparés pour la boutiquerie de Guidobaldo II, qui est à l'époque le duc d'Urbain. Donc vous avez ici une reine qui a une tunique jaune, qui porte un sceptre dans la main gauche, et qui est assise sur un fauteuil qu'on qualifie de forme tenaille, c'est la forme d'Agobert. Vous la retrouvez sans modification particulière, encadré de deux anges ici sur cette chevrette de même provenance, et vous la retrouvez également sur cet albarello qui ressemble toujours au précédent. Alors on retrouve cette reine assise une dizaine d'années plus tard à Pesaro ou Castel-Durante. On disait autrefois Castel-Durante, on dit Pesaro maintenant, sur la foi de Tesson qui ont été retrouvés à Pesaro. Vous avez une reine vêtue de bleu avec une jupe rouge et elle est sur un siège sculpté de grotesque et elle tient son sceptre de la main droite. Vous la retrouvez exactement sur cette bouteille. Tout ça est des années 1574-1575. Et vous la retrouvez également sur ce petit pilulier couvert. Donc, toujours la même. Mais on va la retrouver un peu plus tard, vers la fin du XVIe, début du XVIIe, avec un traitement un peu moins précis, un peu plus relâché, sur cette chevrette qui se trouve au musée de Lisbonne. Et vous la retrouverez dans un ouvrage pharmaceutique qui est le Nuovo Universale Teatro Farmaceutico d'Antonio de Sgobis, publié à Venise en 1667. Elle personnifie le Sénat de la Sérénissime République de Venise. Un autre décor qui va beaucoup évoluer et qui sera copié dans de très nombreuses villes, c'est le décor à Quartieri. Ce décor à Quartieri, vous avez ici la représentation de Cipriano Picolpasso, qui est l'auteur du XVIe siècle, qui a décrit les différents décors de la faïence de son temps. Vous voyez qu'ici, Le décor est divisé en quartiers, quartieries, qui sont de couleurs différentes et qui portent des ornementations à l'intérieur. Ça, c'est le modèle typique de Faenza. Alors, vous le retrouvez naturellement, ce modèle, sur des pots de pharmacie à Faenza. Vous en avez sur un Albarello ici, sur des pots encore ici, toujours Faenza, sur une chevrette. Et ce décor de Faenza va être imité à Palerme, sur une boccia ici, au début du XVIIe siècle. Vous le retrouvez en France, à Nîmes, sur les chevrettes de Cijalon, où là, ce décor s'adapte particulièrement à la forme de la chevrette, qui est dite en côte de melon, et vous voyez que le décor à Quartieri s'adapte particulièrement bien. Il sera ici sur cette autre chevrette également de Nîmes, mais vous le retrouverez aussi sur une forme Albarello. Vous le retrouvez à Montpellier, très proche, toujours sur une forme Albarello à Montpellier. Même au début du XVIIe siècle, sur cette chevrette. Autre décor qui va également être un décor extrêmement populaire et qui sera copié dans de nombreuses villes, c'est le décor à trophée. Décor à trophée, donc, qui est caractérisé par des trophées. Il y a des armures, des instruments de musique, des casques qui se dégagent sur un fond qui, à l'origine, est bleu. Vous avez ici le dessin de Piccolo Basso. Vous le trouvez naturellement à Faenza, qui est sa ville d'origine. À Venise, il est très rapidement copié. À Venise, toujours. Surtout à Castel-Durand, dont il va être le décor type. Et à Castel-Durand, on continuera au XVIIe siècle. Vous avez cette chevrette qui date de 1638. Vous le retrouvez également à Pesaro, ici au XVIe siècle. À Palerme, à la toute fin du XVIe siècle. Mais là, il est devenu jaune. Vous le trouvez également, toujours en Sicile, à Burgio, avec ici une coloration verte, et puis cette espèce de bouclier qui est présent ici, qu'on qualifie de bouclier en forme de masque lunaire, qui est assez caractéristique de Burgio. Vous avez des versions extrêmement géométriques, comme ici à Palerme, et vous avez même parfois une inclusion d'un visage humain, comme dans cette boccia sicilienne. Arrivons-en maintenant à des décors typiquement vénitiens, le décor à Fiori et à Frutti. Voici la représentation qu'en donne Piccolo Basso au XVIe siècle. Vous le retrouvez naturellement sur des albarelli avec un médaillon central qui est entouré par ce décor à Fiori. Alors ici, c'est attribué à Maestro Domenico, comme bien souvent, même si ce n'est pas toujours une attribution certaine. Vous avez ici un décor qui est extrêmement fin, vous voyez, c'est la version vénitienne du XVIe siècle, toujours version vénitienne du XVIe siècle. Et là, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins précis, avec des formes qui sont plus larges, et ça, c'est l'interprétation de Caltagirone en Sicile. Vous l'avez ici sur une chevrette. Caltagirone ou Gerace, les deux attributions sont données pour ce... Pour, mais c'est toujours le décor à Fiori. Ici, Gerace également. Donc ça, c'est en Calabre. Encore Gerace, mais ici avec un personnage en plus. L'autre décor, celui à Frutti. Là, c'est un modèle vénitien du XVIe, avec des fleurs qui sont très précises dans leur dessin. Vous retrouvez encore un décor vénitien du XVIe, ici également. Et là, regardez bien le fruit. Et est-ce qu'il ne rappelle pas très étroitement le fruit enveloppé, qui est la caractéristique de ce décor de Montpellier, de Daniel Olivier au début du XVIIe siècle, toujours Montpellier, le fruit enveloppé. Et vous avez même des imitations de ce décor aux Pays-Bas, comme dans ce Poppy Hansé. Et on peut même trouver une certaine parenté lointaine, bien qu'ici il n'y ait pas la polychromie, avec le décor aux Trois Noisettes de Lyon au XVIIIe. Autre décor qui va être sujet à une déclinaison importante, c'est le décor rouennais à Lambrequin. Vous avez ici une version en camaïeu bleu, qui est classique du décor rouennais. Vous avez possibilité d'avoir une adjonction de rouge, car Rouen est un des rares centres de faïence à avoir maîtrisé la production du rouge, parce que le rouge s'obtient à partir d'oxyde de fer, et chauffé à des températures élevées, l'oxyde de fer, ça donne souvent un brun sale, et à Rouen, on a su, en ajoutant du bol d'Arménie, obtenir un rouge beaucoup plus correct. Ce décor à Lambrequin va être imité à La Rochelle, qui saura s'en emparer, lui donner une certaine originalité. Le décor à Lambrequin de La Rochelle n'est pas une copie servile. Vous avez ici un autre La Rochelle, copie également à Lille, où le décor est moins fin que celui de Rouen. La couleur est un peu différente également. Ce sera imité aussi à Paris. Alors là, on ne sait pas bien si celui-là est Lille ou de Paris. Les attributions varient. Là, c'est vraiment Paris qui imite toujours ce décor à Lambrequin, ici en polychromie, avec les armoiries de l'abbesse de Chelles. Il sera même imité à Nevers, ce décor rouennais, à Clermont-Ferrand, à Moustier. Nous allons passer à un autre décor. C'est le décor que l'on appelle la typologie Mézès. C'est un décor rocaille aux cinq couleurs. Et en 1774, Pierre Mézès s'est installé place de la Pucelle à Rouen, et il a équipé toute sa pharmacie avec des pots de ce type qui ont ce fameux décor de type Mézès, maintenant on l'appelle comme ça, avec deux caractéristiques qui le distinguent des imitations. Une légende en latin et un numéro d'ordre. Tous les pots de la pharmacie Mézès étaient numérotés. À la place du numéro, il existe des pots qui possèdent une coquille Saint-Jacques verte qui remplace le cartouche contenant le numéro. Légende en latin également. Il existe une version où il n'y a pas de numéro et où la légende est en français. Cette version-là est la version que possédaient les Augustines de Dieppe, Il y en a quelques-uns qui sont au château-musée de Dieppe. Malheureusement, la dernière fois que j'y suis allé, il n'était pas exposé. Et ça, c'est un pot de réassort. Vous n'avez pas de nom, parce que lorsqu'on vendait une série de pots, on pensait bien qu'ils s'encastraient quelques-uns, et donc on en vendait un certain nombre sans nom, pour pouvoir inscrire le nom lorsqu'on n'en aurait un à remplacer. Alors ce décor est décliné également sur des bouteilles. Vous le retrouvez sur une chevrette ici. Et alors il y a une interprétation en monochrome, une interprétation en camaïeu bleu. Alors là il y a une certaine ambiguïté parce que il semble qu'un certain nombre ait été réellement effectué à Rouen et que d'autres aient été réalisés à Quimper. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque Pierre Cossy était le fils d'un potier rouennais et qu'il est parti à Rouen, à Quimper, pardon, en emportant les poncifs pour préparer les pots, et donc il y a une certaine analogie et c'est normal. Simplement, on a l'habitude de dire que sont de Rouen ceux qui sont bien dessinés et que ceux qui sont moins bien dessinés sont de Quimper. Mais ça, rien n'est sûr. Alors pour terminer, le décor gothico-floral, donc qu'on appelle parfois en France à la feuille d'iris, mais qui est plutôt appelé à la feuille gothique. Voilà la feuille gothique dans la sculpture du XVe siècle. Alors, naturellement, c'est encore un décor qui prend naissance à Faenza. Comme un décor qui prend naissance à Faenza, vous avez un très beau pot ici qui était dans la collection Louis Lafont. Ici, vous avez un autre pot de Faenza avec des feuilles vigoureuses. Un autre Faenza. Ici, c'est Naples. Donc, vous voyez, c'est toujours le même décor. Là, c'est Pesaro. Alors, vous remarquerez qu'on a en plus ici ce qu'on appelle les rayons de Saint-Bernardin, ces espèces de petits tréponèmes là qui sont dans les frises. Et voilà encore, vous les retrouvez, les rayons de Saint-Bernardin, et vous avez toujours ce décor gothique à Pesaro, avec en plus un oiseau. Encore le décor gothique à Pesaro. Il y en avait aussi à Cafaggiolo. Ici, ce pot Montelupo Deruta. Là, une version de Montelupo, une autre, parfois attribuée à Lyon. Et ce pot de Lyon, qui est une interprétation du même décor. Il ne faut pas oublier que les potiers italiens se sont installés à Lyon au début du XVIe siècle et qu'il est très difficile de distinguer la production lyonnaise du début du XVIe siècle et la production italienne. Je vous remercie. Avez-vous des questions ?